France Musique. Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
À quoi ressembleront demain les orchestres permanents français à l'occasion du forum qui est organisé jeudi et vendredi à Metz, à l'Arsenal, par l'Association française des orchestres? Focus ce matin sur France Musique jusqu'à 9h sur la vie symphonique française. Elle est en mouvement, elle est en mutation. Avec nous ce matin pour discuter, pour débattre aussi de ces questions, Catherine Morin-Desailly, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la présidente de l'Association française des orchestres. Vous êtes aussi sénatrice de Seine-Maritime, Union Centriste, et puis conseillère régionale de Normandie également. Et puis à vos côtés, enfin plutôt face à vous d'ailleurs, celui qui est depuis 10 ans déjà, l'administrateur de l'orchestre symphonique de Bretagne, devenu orchestre national de Bretagne. Bonjour Marc Lellemann.
Bonjour.
Et puis avant 9h, nous serons aussi avec Michael Schoenwand, qui est directeur musical à la fois de l'Orchestre de Montpellier, l'Opéra Orchestre National Montpellier-Occitanie, et aussi depuis peu de l'Orchestre français des jeunes. Première question toute simple, Catherine Morin-Desailly, à quoi sert une association française des orchestres? Quel est son but?
Son but, c'est de regrouper nos orchestres en France. C'est à la fois porter leur voix auprès des institutions, dont le ministère de la Culture. C'est aussi assurer une instance de formation pour tous ceux et toutes celles qui font la vie de ces orchestres. C'est aussi rassembler les partenaires autour des orchestres, que sont les collectivités territoriales, principales financeurs, avec le soutien bien sûr du ministère de la Culture, de ces entités, et être amenés à réfléchir ensemble sur ce qu'est un orchestre, sur la pertinence de la présence d'un orchestre sur un territoire comme pôle ressource. C'est donc ensemble pouvoir porter la voix de la musique, de patrimoine et de création.
Il y a 32 orchestres permanents français, si j'ai bien lu mes petites fiches. Ils sont tous membres de l'association?
Oui, ils sont tous membres de l'association. Et c'est une grande richesse parce que ils représentent une diversité d'abord de territoires, mais aussi de structures, d'offres aussi musicales. Donc il y a un enrichissement à dialoguer les uns avec les autres pour porter cette idée que la musique est indispensable à nos vies et que la musique de patrimoine et de création qui représente en France, je tiens à le dire, une communauté de 3000 professionnels, musiciens, musiciennes, techniciens, administratifs, eh bien, est une richesse formidable. Beaucoup d'externalités positives, toute une économie autour, mais aussi et surtout, au cœur des politiques publiques de la culture, un rôle tout à fait essentiel.
Marc Feldman, vous êtes l'administrateur de l'Orchestre National de Bretagne. Vous êtes donc membre de cette association française des orchestres, puisque tous les orchestres français permanents sont membres. À quoi ça vous sert? Vous échangez? Les idées circulent, par exemple?
Les idées circulent beaucoup. Les débats circulent aussi. Et Madame la sénatrice a tout à fait raison de dire que c'est un lieu d'échange d'idées, de transversalité, parce qu'on n'est pas tous sur la même longueur d'onde au niveau de nos programmations, au niveau de notre région, au niveau de les réalités actuelle, parce que il y a cette formidable diversité d'orchestres et c'est ça ce qui est intéressant.
Depuis 10 ans que vous dirigez, donc que vous administrez l'Orchestre de Bretagne, devenu orchestre national, vous avez vu les choses changer? On est moins chacun dans son coin qu'il y a une décennie, par exemple?
Absolument. C'est-à-dire qu'on est de moins en moins seul dans nos coins. On travaille ensemble. Moi, je travaille avec plusieurs orchestres pour faire des commandes. On va annoncer quelque chose bientôt en mois de janvier avec plusieurs orchestres ensemble. Et aussi, je vois que tout le monde se regarde, tout le monde échange. Et je vois les programmations, je vois l'éducation, je vois la diversité de nos transversalités. Donc les programmations changer d'année en année. Il faut dire simplement, il y a 10 ans aussi, combien de femmes chefs d'orchestre il y avait. Et maintenant, combien aujourd'hui. Il y a un énorme progrès à ce niveau. Et ça se fait en concertation.
On parle de l'avenir des orchestres. On va écouter votre orchestre, l'un de vos deux orchestres, Catherine Morin-Desailly, c'est l'orchestre de Rouen, Haute-Normandie, Gabriel Fauré.
Normandie. Il n'y a plus de haute et de basse, Normandie.
Oui,
Normandie.
Mais à l'époque de l'enregistrement, il y en avait deux aussi, Gabriel Fauré. Gabriel Fauré, extrait de sa suite Péléas et Mélisande avec l'orchestre de l'Opéra de Rouen à l'époque Haute-Normandie, dirigé par Oswald Salaberger. On parle de l'avenir des orchestres à deux jours du début du Forum des orchestres à l'Arsenal de Metz avec Catherine Morin-Desailly, la présidente de l'Association française des orchestres, et Marc Feldman, l'administrateur de l'Orchestre national de Bretagne. Catherine Morin-Desailly, vous êtes présidente de cette association, également sénatrice de Seine-Maritime, mais aussi membre du conseil d'administration de l'Opéra Rouen-Normandie. Alors, vous représentez aussi la région au sein du conseil d'administration de l'Orchestre régional de Normandie. Je ne vais pas vous poser la question, puisque le président Hervé Morin de la région a évoqué l'éventualité d'une fusion entre l'Orchestre régional de Normandie basé à Caen et l'Orchestre de l'Opéra de Rouen. Des élus locaux, des musiciens, la presse locale s'en sont émus. Qu'en est-il aujourd'hui ?
Nous en sommes qu'au tout début de la réflexion. Voilà, le président de la région est allé parler aux musiciens, souhaitant d'emblée les impliquer dans une réflexion ascendante. L'opportunité nous est donnée parce que d'abord la région finance majoritairement ces deux entités orchestrales, que chacune de leur côté, elles n'ont pas toujours les ressources en effectif pour porter certains répertoires, que il y a aussi toute une réflexion au niveau national, d'ailleurs mise en lumière par la mission orchestre que l'Association française des orchestres a souhaité voir se réaliser, de cette idée d'un nouveau pacte symphonique, d'une réflexion pour une meilleure visibilité, lisibilité des orchestres sur le territoire, une réflexion aussi sur les répertoires, une réflexion sur la diffusion et une réflexion aussi sur la filière professionnelle, une réflexion sur la carrière des musiciens. Et tout ça, ce sont des facteurs que nous engageons et qui sont au cœur de notre réflexion pour le projet en Normandie.
32 orchestres permanents en France. Donc je pose des questions un peu idiotes, mais c'est trop ou c'est pas assez selon vous ?
Est-ce que Marc Feldman répond ?
Marc Feldman. Bien sûr, si on veut comparer à l'Allemagne, c'est vraiment pas assez. Et c'est-à-dire qu'il y a quand même des régions de France où il n'y a pas d'orchestre.
Il y a des déserts.
Il y a des
la
déserts.
La Corse,
oui.
Le centre,
oui.
L'outre-mer,
oui.
À part la Réunion.
Absolument. La Réunion, bien sûr, un orchestre à Saint-Denis, l'orchestre national de Bretagne, excusez-moi, va travailler avec cet orchestre sur une commande. Bien sûr, il faut avoir plus. Et surtout aujourd'hui, si on commence à penser à décarboniser les orchestres aussi, c'est mieux d'avoir des orchestres sur place que des orchestres qui sillonnent. Mais aussi, les orchestres qui sillonnent, c'est important aussi pour rencontrer un public. Donc, pas assez.
Bon, oui. Au regard de la notion des droits culturels que j'ai contribué à faire introduire dans la loi NOTRe et dans la loi Liberté de la création, architecture et patrimoine, non, c'est pas assez, justement. Comme l'a dit Marc Feldman, il y a des déserts musicaux. Or, la mission pour Saint-Thiébaut met bien en lumière, parfois, les inégalités d'accessibilité à un répertoire orchestral et que les publics partout en France, au cœur même de notre ruralité, eh bien, sont fondés à bénéficier de cette offre musicale et c'est à ça que nous devons travailler. Et donc, il y aura des ateliers qui vont justement aborder ces sujets au cours du forum.
Mais comment faire ? Parce qu'en effet, il y a des gens qui nous écoutent ce matin, qui vivent dans des villes moyennes. Il y a peu d'orchestres qui leur rendent visite aussi par manque d'auditorium, d'infrastructures. Tous les musiciens et tous les orchestres n'ont pas envie de jouer dans des stades ou dans des salles municipales. Comment on fait aussi ? Il y a ces questions-là qui sont aussi développées d'ailleurs par cette mission orchestre et par ce rapport d'Anne Pourcin et Jérôme Thiébaut, cette question des infrastructures.
C'est un sujet. Marc Feldman pourra peut-être donner en exemple ce qui se passe en région Bretagne. Il y a aussi des différents formats d'orchestres qui peuvent s'adapter aux configurations des scènes et des salles, mais ça engage les collectivités ensemble. Je rappelle que les collectivités territoriales ont la compétence partagée de la culture, à dialoguer ensemble pour construire ce réseau de diffusion qui va s'adapter aussi aux formes proposées par l'orchestre. Je pense que le sujet, c'est aussi la diffusion musicale. Quand on a la chance d'avoir une formation musicale, et Dieu sait si notre pays, encore une fois, est riche de celle-ci, eh bien, il faut tout faire pour que elle soit le plus largement possible accessible au public. Soit que les publics viennent, soit que l'orchestre aussi, voilà, voilà, se déplacent en région. L'investissement particulier des régions à cet égard est significatif et les régions qui ont eu tendance ces dernières années à monter en puissance sur les orchestres ont cette vision justement à la fois de l'aménagement du territoire mais aussi et surtout de cette diffusion au cœur des territoires.
Marc Feldman, comment vous couvrez avec votre orchestre tout le territoire breton ?
L'Orchestre National de Bretagne tourne partout en Bretagne.
Et je vous comprenez sur les îles ?
Oui, parfois, oui. On est allé sur Belle-Île, on a des projets d'envoyer de musique de chambre sur le Ponant, sur les sept îles du Ponant, c'est un grand rêve de l'orchestre, mais on le fait. Et aussi, ça nous arrive parfois de jouer pour des communes de 500 habitants. Et je dirais, vous avez dit que les orchestres ne veulent pas aller dans des stades, dans des gymnases, dans les lieux. Il faut. C'est-à-dire que quand il n'y a pas d'équipement, il faut aller là où on peut jouer. Que ça soit dans une petite église, que ça soit dans un salle polyvalente. Et il faut pas faire le fine bouche parce que l'acoustique n'est pas parfaite. Il faut aller à l'encontre, surtout à la rencontre de notre public sur le terrain. Et c'est ce qu'on fait. Et je crois que beaucoup d'orchestres le font. L'orchestre de Picardie est aussi un très très bon exemple. Et en Normandie, il y a aussi l'orchestre de Normandie qui fait un travail de terrain qui est vraiment merveilleux.
Tout à fait. Les deux orchestres sont très présents sur le territoire.
Exactement.
Allez, on va écouter un peu cet Orchestre National de Bretagne dans une musique non pas classique, quoique celle de Samy Thiébaud. Mm-hmm. Samy Thiébaud, Diva and Shiva, avec Samy Thiébaud au saxophone et l'Orchestre National de Bretagne, dirigé par Aurélien Hazan Zelinski. On va parler un petit peu aussi du répertoire, de la diversité du répertoire, de son élargissement. Est-ce que le concert classique aujourd'hui a vécu ? Je vous pose la question à vous deux, Marc Feldman.
Bien sûr que non, le concert classique et le tronc de notre fantastique arbre de la musique symphonique. Après, moi je pense que l'avenir de cet orchestre, de ce édifice orchestre dans le monde entier, sera éclectique. Et il y a un grand débat dans les compositeurs, qu'est-ce qui est la musique classique ? Moi, je préfère parler de musique orchestrale. Donc je crois qu'il y a beaucoup d'orchestres qui sont des lieux d'expérimentation. Et heureusement, quand on a de ces lieux d'expérimentation, après des autres qui sont des orchestres...
Vous en faites beaucoup à l'Orchestre de Bretagne.
On fait beaucoup. C'est un peu notre marque de fabrique, si vous voulez. Mais c'est notre région qui le demande. On a une région qui est très éclectique dans ses goûts. Et donc, on est miroir et on travaille avec beaucoup d'acteurs de notre région qui nous aident à faire ce côté éclectique dans notre répertoire.
Oui. Catherine Morin-Desailly, je lisais ce chiffre étonnant. Le concert symphonique et les représentations lyriques ne représentent aujourd'hui plus de la moitié des activités générales des orchestres. C'est étonnant. En fait, il y a tout aussi cette partie de représentation scolaire, de médiation qui s'est énormément développée ces dernières années.
Tout à fait. Les missions des orchestres se sont beaucoup diversifiées et il y a eu une forte demande, notamment de la part des collectivités territoriales, de cette dimension de médiation et d'éducation artistique et culturelle. Elle est fondamentale pour constituer les publics de demain et encore une fois appliquer cette notion de droit culturel qui est d'aller chercher les publics dès le plus jeune âge, les sensibiliser à la musique pour le restant de leur vie. C'est la raison pour laquelle il faut refonder un nouveau pacte symphonique, parce que comme ces missions se sont considérablement élargies, il y a un décalage aussi avec les textes réglementaires aujourd'hui et ce qu'il y a dans ces textes-là et la réalité des missions des orchestres. Donc il faut à la fois État et collectivité territoriale reposer cette question de la mission des orchestres, sans doute faire évoluer aussi les textes correspondant à la contractualisation et les conventions passées avec les orchestres. Pour revenir sur la question du répertoire, je voudrais insister que l'étude d'Anne Pourcin et Jérôme Thiébaud, qui porte notamment sur l'année 2018-2019 en matière d'observation de ce qui est joué, du répertoire, on ressent 600 compositeurs et compositrices, mais finalement 3% seulement de compositrices se trouvent, exposées. Donc je tiens à le dire, ça sera un des enjeux aussi du forum, que de discuter de cette question de la diversité, de l'égalité aussi, et la mise en lumière nécessaire, désormais, d'abord des compositrices et également des chefs. Voilà, ça c'est important, ça fait partie aussi de la réflexion qui est en cours.
Marc Feldman,
je veux juste dire que c'était pas une problématique à l'orchestre symphonique ni national de Bretagne depuis un certain temps. Des compositrices et des chefs sont très présentes à l'orchestre. On en est fiers.
Je voudrais juste revenir à cette mission sociale. Je pense que tout le monde en convient maintenant. Des orchestres à l'intérieur. Il y a des musiciens. Est-ce que ces musiciens, ils sont formés pour ça? Est-ce qu'ils ont signé pour ça? Est-ce qu'ils sont accompagnés? Je vous pose la question. Est-ce qu'ils sont toujours d'accord pour faire ça, les musiciens? Catherine Morin-Desailly.
Moi, je pense que non. Et qu'il convient de réfléchir, ça fait partie aussi de la refondation de ce pacte. Il faut réfléchir avec les musiciens et les musiciennes sur ce qu'est le cœur de leur mission. Et aussi accompagner la carrière, la professionnalisation, ça va de la formation initiale à la formation continue, ça va aussi jusqu'à la reconversion aussi. Tous ces aspects ne sont pas suffisamment pris en compte. Et encore une fois, il faut que le dialogue entre l'État et les collectivités s'instaure autour de ces sujets. Ce sont des sujets d'actualité.
Marc Feldman.
Oui, je suis d'accord, bien sûr que faut dire que les orchestres, les musiciens, tout de notre métier n'est pas un monolithe. Donc il y a des gens qui sont pas tout à fait, c'est pas une question d'âge non plus, c'est une question de beaucoup de questions, mais il y a aussi beaucoup de sang neuf qui arrive dans les orchestres aujourd'hui. Et justement, il y a quand même un grand changement d'attitude par rapport à la question de diversité tous azimuts. Donc moi je suis très content de voir des nouveaux qui arrivent.
Poser la question, qu'en pensent les musiciens? Qu'en pensent aussi les chefs? On va poser la question dans un instant à un grand chef, c'est Michael Schoenwand. Le voici dans la musique de Tchaïkovski. C'était au Festival de Radio France Montpellier-Occitanie en juillet dernier, l'Orchestre National Montpellier-Occitanie dirigé par Michael Schoenwand dans cet extrait de Tchaïkovski, Francesca da Rimini. Bonjour maestro.
Bonjour.
C'est toutes ces questions qu'on aborde depuis 8h30, vous, chef, directeur musical de l'Opéra Orchestre National Montpellier-Occitanie, mais aussi tout récemment de l'Orchestre Français des Jeunes. Quel est votre regard de chef d'orchestre, votre point de vue sur toutes ces questions sur l'avenir des orchestres?
Oh là là, vous avez combien d'heures pour ça? Non, mais j'ai écouté votre émission. Et bonjour à Marc, bonjour à Catherine. Et je suis tout à fait d'accord. La position d'un orchestre aujourd'hui, ça change rapidement. Et je trouve pour le bien, un orchestre aujourd'hui, ça fait partie de notre société. Et il faut savoir de prendre sa place dans notre société.
Les directeurs musicaux sont-ils suffisamment impliqués et ont-ils toute leur place dans ces débats? Et plus généralement, les musiciens, c'est la question qu'on posait.
Je ne sais pas, pour mes collègues, je veux dire, pour moi, c'est le point de départ pour tout mon travail, de vraiment intégrer la musique dans la société, pour montrer à quel point la musique est essentielle pour nous tous.
C'est une question qui revient aussi dans tous les pays d'Europe. Vous dirigez évidemment beaucoup d'orchestres, et notamment au Danemark. Vous êtes danois et vous nous parlez du Danemark ce matin d'ailleurs. Est-ce que ces questions sont les mêmes dans tous les pays en ce moment?
C'est une question que tout le monde se pose, mais je crois que, étant artiste, c'est une question qu'il faut se poser tous les jours. Pourquoi est-ce que tu es là? Pourquoi est-ce que tu joues? Non seulement comment est-ce que tu vas jouer telle œuvre, mais pourquoi? Qu'est-ce que tu veux transmettre? Quelle est la position de cette musique? Et quand on parle de toutes ces structures que je trouve tellement importantes, c'est pour libérer tout ça, pour libérer toutes ces passions, les deux côtés, les musiciens comme le public.
Vous êtes le nouveau directeur musical de l'Orchestre français des jeunes. On pourra d'ailleurs vous entendre la semaine prochaine à la Philharmonie de Paris et au Théâtre Opéra de Compiègne, puisque cet orchestre est implanté et en résidence dans la région Hauts-de-France. Est-ce que ces plus jeunes musiciens sont très sensibles à ces questions? Alors, rôle social, je posais cette question sur la formation et sur ces musiciens qui n'ont pas forcément signé pour toutes ces questions de médiation culturelle. Les plus jeunes musiciens, que vous disent-ils, Michael Schoenwandt?
Mais je travaille beaucoup, et nous travaillons tous à l'Orchestre français des jeunes pour exactement ça, pour créer des musiciens complets, ou des musiciennes complètes. Non seulement de jouer au plus haut niveau, mais aussi de comprendre la façon de lier avec le public, le rôle d'un orchestre dans une société, le côté écologique, médiation, tout ça. Et vous venez de discuter ça, Catherine, le problème de certains musiciens et certaines musiciennes de prendre ce nouveau rôle. Je trouve que les jeunes sont complètement ouverts pour ça.
Est-ce que vous voyez évoluer ces questions de diversité? Vous avez des jeunes musiciens en face de vous. Je vous posais la question un peu cash. Est-ce qu'il y a moins de musiciens blancs face à vous, par exemple, aujourd'hui en France, dans l'Orchestre français des jeunes? Donc plus représentatif de la diversité.
Notre société est diverse aujourd'hui. Donc franchement, je... C'est pas un point que je trouve que est le plus important, surtout dans notre société d'aujourd'hui. Il y a une diversité entre les sexes, entre les couleurs que je trouve absolument essentielle de montrer dans l'orchestre aussi. Mais c'est pas, on fait le choix basé sur la musique et pas sur les couleurs.
Bien sûr. Catherine Morin-Desailly.
Bien sûr, l'orchestre doit être le reflet de ce qu'est la société contemporaine. Mais la question de la diversité, c'est pas au niveau de l'orchestre qu'elle se travaille. C'est dès le plus jeune âge, dans l'accessibilité aux formations, c'est-à-dire l'ouverture de nos conservatoires, de nos écoles de musique à une population très diversifiée. Donc ça relève aussi des politiques, en fait, des collectivités territoriales.
Et de l'éducation.
Et de l'éducation. Et du souhait, justement, de cette ouverture.
Et si je peux dire, c'est une question de peut-être une génération. C'est-à-dire qu'il y a une accessibilité maintenant par rapport à l'orchestre à l'école, Demos, et plusieurs projets lancé depuis quelques années, et il ne faut pas dire qu'au jour au lendemain, on va avoir le plus de diversité dans nos orchestres. Ce n'est pas une question de culture, c'est une question d'accessibilité, et on est en train de travailler dessus, et je vous dis, dans 10, 15 ans, on verra des différences.
C'est toujours la question des droits culturels qu'on évoquait, qui est le fil conducteur aujourd'hui de nos politiques publiques, en tout cas, il faut que ça le soit.
Les droits culturels et les droits pour tous ceux qui vivent en France métropolitaine et en Outre-mer, de pouvoir voir des orchestres jouer. Je pense aussi à nos auditeurs qui sont en Corse. Rendez-vous jeudi et vendredi à l'Arsenal de Metz pour ce forum des orchestres. Voilà, beaucoup de questions qu'on a juste un peu touchées du doigt pendant une demi-heure. Un grand merci à vous, Catherine Morin-Desailly. Merci Michael Schoenwandt également en ligne avec nous. Je rappelle que les 14 et 15 décembre, 14 décembre à la Philharmonie de Paris, 15 décembre à Compiègne, on pourra vous entendre dans ce programme Nouveau Monde avec cet orchestre français des jeunes. Et quant à l'orchestre de Bretagne, il fait des tas de choses, mais on pourra entre autres vous entendre, enfin vous, pas vous, hein, vous jouez plus depuis longtemps, Marc Hellman, mais l'Orchestre National de Bretagne est dans une création de Gabriela Ortiz, cette jeune compositrice mexicaine. On va se quitter avec Saint-Saëns, il est à l'honneur cette année, et avec l'Orchestre National de France. Christian Macellaro, le directeur musical de l'Orchestre National de France dans cette symphonie. Alors là, elle n'a pas numéro, c'est un peu la numéro zéro, la petite symphonie de Camille Saint-Saëns, extrait de cette intégrale qui vient de paraître et on en parlera avec le chef. D'ailleurs, la semaine prochaine, rendez-vous, d'ailleurs, c'est pas réservé aux professionnels, hein, tout le monde peut assister à ce forum des orchestres jeudi et vendredi à l'Arsenal de Metz.
À réécouter sur francemusique.fr.